nous avons donc le 10 août, là nous avons le sac des Tuileries et le refuge à l'Assemblée nationale. Et donc elle entre le 13 août 1792 avec la famille royale dans la tour du Temple. Vous savez qu'à l'origine, le roi imaginait qu'il allait être logé en résidence surveillée au palais du grand prieur, mais qu'il n'en sera rien. C'est un véritable camping dans les premiers jours, où Madame Élisabeth loge dans une espèce de cuisine. Puis donc ils vont être répartis dans les différents étages de la tour. Et là, très vite, il va y avoir la séparation des sexes, en quelque sorte, le roi et le petit prince étant au deuxième étage, la reine, Madame Élisabeth et Madame Royale étant au troisième. Et en fait, hormis le moment des adieux, les uns et les autres ne vont pas se revoir. Donc, Madame Élisabeth va voir, donc Madame Royale va voir petit à petit partir les deux femmes et Madame Élisabeth vit dans la tour du temple une vie de prière. Elle prie la liturgie des heures, elle fait oraison et elle va soutenir les deux autres femmes. Elle va surtout préparer Madame Royale à rester seule. Elle lui ouvre les yeux sur certaines réalités de la vie et elle lui enseigne la prière et même de marcher. Elle lui enseigne qu'il faut marcher je ne sais combien de pas par jour, parce que comme elle était consciente, il risque de phlébite, tout simplement. Et si le petit prince avait bénéficié, et avait été un peu plus vieux, et bénéficié de ses conseils, il aurait peut-être survécu. Donc, son grand acte aussi, c'est en janvier 1793, donc le 20 janvier, c'est de proposer l'abbé Gwers de Firmont, avec lequel elle avait toujours gardé des contacts, malgré l'emprisonnement, au roi. En effet, non seulement elle n'avait gardé des contacts avec l'abbé Gwers de Firmont, mais elle avait toujours réussi à faire passer des messages à droite à gauche, codés ou pas, au point qu'elle avait même réussi, elle réussira même à comploter pour organiser une fuite. Mais la reine refusera de partir parce qu'il fallait se séparer des enfants et elle refusera, et donc Madame Élisabeth ne profitera pas de ce qui a été organisé pour partir elle-même. Donc elle va rester fidèlement auprès des siens jusqu'à la fin. Donc la reine part pour la conciergerie le 2 août 1793, est exécutée le 21 octobre, et Madame Élisabeth quitte la tour du temple le 9, est exécutée le 10 mai. Et on a dans le protocole, en quelque sorte, une baisse. Le roi partit en carrosse, la reine part en charrette, mais seule, et est exécutée seule, et Madame Élisabeth, elle part avec 24 autres personnes. Alors là, elle va aider ces personnes à mourir, elle va leur montrer Dieu comme vraiment dans sa miséricorde, qui va les accueillir tous, elle va leur dire « Nous allons tous nous retrouver au ciel ». À ceux qui ont peur de mourir ou qui pleurent, elle dit, mais comme ils ont tous les uns les autres déjà des membres de leur famille qui ont été exécutés dans les semaines précédentes, elle leur dit, vous allez les retrouver. Elle va démontrer à la comtesse de Sérilly, qui souffrait de gros maux de ventre, qu'il faut qu'elle déclare sa grossesse. Donc la comtesse de Sérilly va déclarer sa grossesse. Alors je suis en contact avec des descendants. En fait, la comtesse de Sérilly va être sauvée. Grâce à cela, elle va être sauvée de la condamnation à mort, puisqu'elle ne sera pas exécutée. Puis la terreur va... On est en mai 1794, donc la grande terreur s'arrête en juillet. Donc la comtesse de Sérilly ne sera pas exécutée, mais en fait ne mettra jamais au monde un enfant. Donc, soit elle a fait une fausse couche, soit ses douleurs de ventre n'étaient pas les conséquences d'une grossesse. Quoi qu'il en soit, elle est sauvée, elle ne sera pas exécutée. Donc au moment de l'exécution, elle soutient les uns les autres, récite le Miserere, et au moment où elle est exécutée, donc elle a un geste de pudeur, puisque son fichu son fichu se glisse et donc et en fait et elle est exécutée. À ce moment-là, il y a une odeur de rose qui se répand sur la place Louis XV et donc comme je dis, l'aventure de la béatification commence. Parce qu'en effet, à partir de la mort de Madame Elisabeth, à peu près tous les 10-15 ans, vont être publiés des livres sur elle. Ces livres sont plutôt des hagiographies. Ces livres, on n'a jamais tant écrit sur une femme de la famille royale. Même les reines, a fortiori les filles ou les sœurs de rois n'ont jamais eu de tels privilèges, mais même les reines. Il y a trois livres qui sont préfacés par des évêques, ce qui est quand même signifiant, et pas n'importe lesquels. Monseigneur Dupanloup, grand évêque orléaniste, Monseigneur Darbois, plutôt républicain, et le cardinal Felletin. Puis, au XIXe siècle, je serais bien incapable de savoir s'il y a vraiment eu un vrai projet de béatification. Par contre, au XXe siècle, il va y avoir un premier projet dans la première moitié du XXe siècle, porté par une carmélite du Carmel de Meaux et la duchesse de Vendôme, sœur du roi Albert de Belgique, qui est mariée à un petit-fils de Louis-Philippe. Puis il va y avoir de nouveau, on ne sait pas trop, enfin, on a des archives de ce procès, ils sont au diocèse de Meaux. Et puis, il va y avoir une ouverture en 1953 avec le cardinal Felletin. Monseigneur Roland Gosselin, évêque de Versailles, soutient beaucoup la cause, célèbre des messes, et c'est le prince Xavier de Bourbon-Parme qui est le président de l'association pour la béatification. Je crois que tout cela va se perdre dans les sables de mai 68. Alors pourquoi demander la béatification? Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, moi ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui où il y a beaucoup de célibataires qui, donc dans l'Église, elle est un beau modèle de célibataire. Donc elle montre quand même un beau modèle d'une femme qui consacre sa vie à la prière, au service des pauvres et au soutien des siens. Ça, je crois que c'est un premier trait qui est pour aujourd'hui, le pape Jean-Paul II a demandé que l'on béatifie et canonise des couples. Je crois que c'est important aussi de proposer des modèles à tous les célibataires qui en cherchent dans l'Église. Deuxième sujet, cette offrande de sa vie. Le pape François, au mois de juillet dernier, a donné un motu proprio pour les causes de béatification, donnant une troisième piste, en quelque sorte, de béatification. Vous savez qu'il y a déjà le martyr, mais Madame Elisabeth n'est pas morte par haine de la foi, puisque l'acte d'accusation ne porte aucune référence religieuse. Le martyr, l'héroïcité des vertus et l'offrande de la vie. C'est-à-dire que les gens qui meurent de mort violente, parce qu'ils sont restés là où ils étaient, fidèles à la mission qu'ils avaient reçue, c'est la même chose que les moines de Tibrine, par exemple. On ne sait pas pourquoi les moines de Tibrine sont morts. Quel était le motif? On le saura peut-être un jour, mais pour le moment, on ne sait pas. Voilà. Donc, elle entrerait, je pense, dans cette filière, en quelque sorte, où donc elle a délibérément, connaissant les risques, elle est restée auprès de son frère et des enfants. Bien sûr, ce qui est important, c'est cette dimension de la charité qu'elle va vivre de manière très simple au quotidien et très accessible aussi. Donc, une charité de proximité qui est très intéressant. Il y a aussi chez elle un profond sens de l'Église. Dans cette période très complexe, avec la constitution civile du clergé, il semble qu'elle a vraiment tout de suite la bonne direction, elle ne tergiverse pas, et alors bien sûr c'est peut-être plus facile pour elle que pour le roi, mais et puis aussi nous avons affaire à une femme qui, je dirais, non seulement est intelligente, mais je dirais, moi je vois, quand Jésus dit il vous faut être candide comme des colombes et rusé comme des serpents, je crois que ça pourrait être sa devise. Toute sa vie, elle a vraiment vécu cela. C'est une femme qui donne l'impression d'être vraiment très pure dans sa relation à Dieu et aux autres, mais aussi infiniment rusée. Et comme elle était mathématicienne, elle était très astucieuse pour faire des codes, pour faire des écritures chiffrées, tout ça. Et elle est aussi très astucieuse pour tourner les obstacles. Et donc, voilà, se trouver un Irlandais qui est un prêtre étranger comme confesseur, tout ça. Voilà, pas concerné par la constitution civile du clergé, il jouit d'un statut un peu à part parce qu'il est étranger, donc voilà. On ne va pas arrêter un sujet de sa gracieuse majesté. Voilà. Ce sens de l'Église, il va y avoir sa défense de la vie à naître. Ce qui est héroïque, c'est vraiment cette confiance absolue en la miséricorde du Seigneur, cette foi en la vie éternelle. Et je trouve que aujourd'hui, où ce n'est pas quelque chose de qui fait pas, si on fait des questions à la sortie des sorties de messe, la foi en la vie éternelle, c'est pas forcément ce qui est très communément partagé. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, nous avons vraiment quelqu'un qui est vraiment qui a une foi en la vie éternelle indestructible. Important aussi, c'est son sens de la famille et dans les familles divisées que nous connaissons aujourd'hui. Elle est impressionnante parce que elle arrive à garder des liens avec tous, alors que la famille royale, à l'époque de Louis XVI, c'était quand même quelque chose. Dimension aussi importante, c'est la prière pour la France. Donc elle reçoit ça de tradition familiale. Il semble qu'elle ait le sentiment que c'est aussi sa mission, en tant que princesse de la famille de France, de prier pour la France, qu'elle a un sentiment que la France leur est confiée et qu'elle, en tant que, justement, que princesse, elle a une mission toute particulière. Et donc, ce projet-là de confrérie va être à la fois tourné vers le cœur immaculé de Marie et le cœur de Jésus, tourné vers les pauvres. D'ailleurs, cela va donner l'œuvre du lycée Carcado Cesval que nous avons dans le 6e arrondissement. En fait, Carcado et Cesval, ce sont les noms de deux femmes de cette confrérie, de deux femmes qui étaient dames d'honneur. Et cette dimension on est de la prière pour la France. Il y a donc voilà. Après, dans sa correspondance, on voit que avec ces dames d'honneur, il y avait une relation spirituelle. Il y a des petits conseils au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, qui émaillent ces lettres. On sait que à Montreuil, il y avait une prière commune, c'est quand même, je pense, assez rare. Certainement aussi des conférences, c'est certainement pas le salon de Madame Bakary, mais en toute proportion gardée, cela y ressemble. Donc en fait, Madame Isabelle, pour conclure, je dirais que c'est une femme active, moderne, intellectuelle, à qui une vie spirituelle très structurée et surtout une foi inébranlable dans l'Église, dans la vie éternelle, qui a le souci des pauvres et des malades et qui se révèle héroïque dans les circonstances dramatiques dans lesquelles elle a à vivre. Merci de m'avoir écouté. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Alors, Elisabeth de Hongrie, plusieurs liens entre Élisabeth de France et Élisabeth de Hongrie. D'abord, Élisabeth de Hongrie est l'ancêtre d'Élisabeth de France, elle est sa sainte patronne, et les circonstances font que l'église qui est maintenant la paroisse de la tour du Temple est sous le vocable d'Élisabeth de Hongrie. Cette église, cette Élisabeth de Hongrie, a été voulue par Marie de Médicis, qui a fondé un couvent royal pour des religieuses franciscaines sous le patronage d'Élisabeth de Hongrie. Et c'est Anne d'Autriche qui a fait réaliser l'église, qui a été consacrée le 14 juillet 1646. Oui. Oui. Alors, je crois que Madame Élisabeth, dans ses prières, parle d'associer, une sorte de confrérie. Enfin, on est en 1790, les choses sont quand même déjà très mouvementées, et malheureusement, ça n'a pas eu vraiment de consistance. Mais néanmoins, Madame de Carcado et Madame de Sesval, quand elles reviennent d'émigration, entrent en relation avec Adélaïde de Cissé, fondateur des filles du cœur de Marie, et elles fondent ensemble cette société, je ne sais pas quel est le statut exact, des filles du cœur de Marie. Et elles vont fonder. Même Dieu ne sait pas, oui, je pense. Et elles vont fonder cette œuvre qui existe aujourd'hui, encore aujourd'hui. La procédure aujourd'hui. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour qu'il y ait un procès de béatification qui soit ouvert, il faut d'abord qu'il y ait une association privée de fidèles du diocèse dans lequel le candidat, en quelque sorte, est mort, soit fondée. Donc, concrètement, il faut que quelques fidèles, il n'y a pas besoin d'être 200, hein, quelques fidèles fondent une association loi 1901, puis que cette association loi 1901 soit reconnue par l'archevêché, l'évêché ou l'archevêché, comme association privée de fidèles. Après, cette association privée de fidèles doit désigner un mandataire. Ce mandataire, ensuite, qui va être l'interlocuteur avec l'archevêché, ou l'évêché, enfin, pour Paris, l'archevêché. Après, l'association va devoir nommer un postulateur. Donc le postulateur est nommé par l'association et confirmé par l'évêque. Ensuite, ce postulateur doit écrire ce qu'on appelle un libelle dans lequel il va présenter le candidat, une liste de témoins. Quand c'est une cause historique comme celle-ci, ce sont des témoins de la renommée, mais si c'est une cause de quelqu'un d'actuel, il va falloir mettre la liste des personnes qui l'ont connue, et une liste des œuvres écrites, publiées, biographie, et puis il faut démontrer l'intérêt pastoral et l'héroïcité des vertus de la personne. Donc c'est un petit dossier d'une dizaine de pages, hein. Faut pas croire que c'est, faut que ça soit court, parce que cela va être présenté à la conférence épiscopale du pays pour avis. Donc ces messieurs les évêques ne vont pas pouvoir lire quand même des tonnes et des tonnes de papier. Donc il faut que ça soit très court, très succinct. Voilà. Donc les évêques de la conférence épiscopale reçoivent ce dossier et il va y avoir un vote à l'assemblée. Donc à Lourdes, donc là le vote a eu lieu à l'assemblée de l'automne, ça devait être au printemps, mais comme l'archevêque était malade, ça a été à l'automne. Il faut demander aussi l'avis de la congrégation pour la cause des saints, qui va donner un nil obstat, ce qui est mal. Donc ensuite, quand il y a nil obstat de la congrégation pour la cause des saints et avis favorable de la congrégation, de la conférence épiscopale, l'archevêque va prendre un édit d'ouverture de la cause et va demander que toutes les personnes qui ont quelque chose à dire sur la servante de Dieu se présentent au tribunal, en quelque sorte. Alors le tribunal, on n'emploie plus le mot, c'est en fait composé, donc l'archevêque va nommer plusieurs commissions. Il va y avoir une commission historique qui n'est pas forcément composée de prêtres, avec un président de cette commission. Donc le postulateur va transmettre tout ce qu'il a à la commission historique, et la commission historique va faire ses propres recherches et étudier aussi toutes les pièces que vont lui fournir les personnes qui apportent des choses suite à l'édit. Il va y avoir deux censeurs théologiens, ceux-ci vont étudier l'orthodoxie des écrits de la servante de Dieu. Et enfin, il y a la commission d'enquête qui est à Paris habituellement présidée par un évêque à la retraite. Il y a aussi le promoteur de justice qui est un prêtre, toujours, et ce qu'on appelle un ou plusieurs notaires, qui sont en fait pas des notaires de ville, mais qui sont des gens qui vont, c'est comme dans les procédures de mariage, de nullité de mariage, qui vont être en quelque sorte des greffiers. Et donc, ils vont vérifier de l'opportunité, au nom de l'évêque, de l'opportunité, de la cause, de l'héroïcité des vertus, de l'orthodoxie, des écrits et des propos et des actes du serviteur ou de la servante de Dieu. Si on conclut qu'il n'y a a priori aucun obstacle à ce que le serviteur de Dieu soit béatifié, le postulateur doit rédiger la positio, c'est-à-dire une synthèse de tous les travaux, et là, cette synthèse, on va clore le procès de ses uns solennellement en mettant les scellés sur la positio, et on les expédie la positio à Rome, et là la congrégation pour la cause des saints va étudier le travail qui a été fait et va donc conseiller au pape de prononcer s'il y a un miracle dûment reconnu, le pape va prononcer une béatification. S'il n'y a pas de miracle, on va seulement déclarer la personne vénérable. Donc le cas de Madame Clotilde serait née de Madame Elisabeth, elle a été déclarée vénérable. Alors pour Madame Elisabeth, il y a eu beaucoup de grâces reçues, tel point que la Carmélite de Meaux a pu faire un livre des grâces. Mais alors malheureusement, dans le livre, elle ne met que les initiales. Puis on a aussi, semble-t-il, un miracle qui a été obtenu de guérison d'une maladie grave, vraisemblablement un cancer d'après les descriptions, de l'épouse du cocher de la duchesse de Vendôme. Mais là aussi, il y a un échange de lettres qui parle de la guérison. Tout le monde s'émerveille, mais personne ne va voir l'évêque pour lui déclarer la guérison et lui demander de nommer. Il faudra fallu que l'évêque nomme une commission médicale pour étudier le cas. Rien n'a été fait. Donc le cas de cette brave dame ne pourra pas servir. Voilà. Autre question ? Il y avait plusieurs. Il y avait d'autres. Peut-être répondu à plusieurs questions à la fin. Alors, oui, c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Alors, il est bien clair que l'on béatifie, on canonise une femme, on ne canonise pas la famille royale, ni les Bourbons, c'est Madame Élisabeth que l'on propose à la béatification. Cela ne veut pas dire non plus qu'on condamne, qu'on condamner le régime qui l'a béatifié, c'est pas notre problème, c'est pas l'objet. Voilà, donc c'est où il faut être très clair, très prudent, justement, pas partir dans des choses qui seraient pas opportunes. Je pense que la situation est quand même assez apaisée aujourd'hui. Je pense que si la duchesse de Vendôme et la Carmélite n'ont pas réussi à faire beaucoup avancer les choses, c'est parce qu'il y avait le problème de l'action française. À l'époque, la duchesse de Vendôme était une Orléans, très liée à l'action française. Donc je pense que ça nuit à la cause. Aujourd'hui, les choses sont, il n'y a pas d'enjeu politico-religieux dans tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a quand même une certaine publicité lors de la décision de la conférence épiscopale, puisque cela faisait partie du compte-rendu final de la conférence épiscopale, qui est quand même retransmis par la plupart des journaux, même des journaux qui ne sont pas spécialisés analysent ce rapport final, et il n'y a eu aucune réflexion, aucune remarque, même des journaux un petit peu tendancieux qui n'aimeraient pas trop voir une tête couronnée monter sur les autels, il n'y a rien eu. Le procès de béatification de l'impératrice Zita ne suscite pas non plus de haine ou de refus ou de levée de bouclier de la part de tel groupe. Non, les temps sont plus calmes qu'au 19e siècle, ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors, nous avons fait réaliser, donc Dominique Sabourdin-Perrin, qui est dans le fond de l'église, pourra, si vous le souhaitez, vous dédicacer le petit livre qu'elle a fait, qui est en fait, Dominique Sabourdin-Perrin travaille avec moi sur la cause. Ce petit livre qu'elle a réalisé, donc qui ne coûte que 10 euros et qui est vraiment une façon très agréable et rapide de faire connaissance avec Madame Elisabeth un peu plus que ce soir. Ça peut être aussi moyen de diffuser aussi, si vous avez des gens, on peut leur donner, leur envoyer. Donc ce livre comporte une biographie, comporte une bibliographie, si on veut aller plus loin, un petit peu d'iconographie, une généalogie qui permet de la situer dans la famille royale, mais qui permet aussi de voir qu'elle est aussi la grand-tante du comte de Chambord, par exemple. Il y a une proximité qui est parlante pour nous. Une chronologie aussi très simple. Quelques lettres, une quinzaine de lettres déjà pour permettre d'entrer directement en contact avec le personnage.
À partir de quand y aura-t-il des images pour demander les grâces ?
Eh bien, là vous remets le couteau dans la plaie, cher confrère, parce que en fait nous avions tout fait pour que avoir les images ce soir, mais semble-t-il le diable s'en est mêlé et nous n'avons pas d'images ce soir. Vous pourrez ce soir trouver au fond de l'église ce petit dépliant que j'aurais voulu faire, qui à l'origine a été commandé, qui aurait dû être la moitié de cela, mais l'imprimeur l'a tiré dans ce format-là. Donc vous avez dans ce dépliant une gravure inédite de Madame Elisabeth, vous avez une brève biographie, vous avez la fameuse prière que j'ai récitée et la prière pour obtenir la béatification et les grâces au dos. Est en cours d'impression et on devrait y recevoir la semaine prochaine aussi donc une petite image plus facile à avoir en forme de signet sur lequel il y aura le portrait et uniquement la prière pour obtenir la béatification et les grâces. Voilà. Il y a l'association pour la béatification de Madame Elisabeth a un site, donc vous pouvez aller dessus pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Donc le 3 mai prochain, alors cette année Madame Elisabeth Donc chaque année, on fait une messe et une conférence le jour de sa mort, le 10 mai, mais cette année, le 10 mai, le jour de l'Ascension. Donc nous avons avancé au 3 mai la célébration à Sainte-Élisabeth, mais il y aura à Saint-Symphorien à Versailles le 2 mai la même chose, une conférence, et puis pour la populariser, nous allons essayer, il y a un projet de spectacle. Donc il y a, j'ai une amie qui était professeure au conservatoire du centre de Paris, qui s'est enthousiasmée pour la chose, et donc qui a fait une recherche d'œuvres musicales de l'époque, et avec ses élèves, il va y avoir un spectacle, il va y avoir une biographie rapide, il va y avoir un récitant va lire une biographie rapide de Madame Élisabeth, et ça sera entrecoupé par des musiques chantées, enfin de l'époque, et des acteurs en costume. Et ça aura lieu à Sainte-Élisabeth, je crois le 24 mai, et aussi le 2 juin in situ, je dirais, c'est-à-dire dans le domaine de Montreuil. On a tenu de pouvoir donner le spectacle dans le domaine de Montreuil le samedi 2 juin après-midi. Voilà un petit peu les événements à venir. Oui, monsieur. Pardon ? Il est au fond, vous pouvez, il y a 50 exemplaires au fond. Alors voilà, le journal, il y a eu deux ouvrages précédents, voilà, le deux derniers, c'est celui de Jean Guigry, Le Sacrifice du Soir, qui est remarquable, et Jean Guigry avait vraiment fait une étude et des recherches, il avait essayé de percer on avait fait des recherches aussi en Italie, qui ont été infructueuses pour essayer de revoir la correspondance entre Madame Élisabeth et Madame Clotilde, il a échoué, donc... Voilà. Dominique Sabourdin-Perrin a fini par trouver une thèse sur Madame Clotilde en italien avec quelques petites choses intéressantes. On va travailler dessus. Et puis, il y a aussi, donc, Madame Bernet, qui a écrit un livre sur Madame Élisabeth que je trouve moins intéressant parce qu'elle s'attache plus à son côté politique que l'aspect spirituel. Et puis, il y a des choses qu'elle n'a pas vérifiées et qui sont un peu fausses, donc ce qui est un peu embêtant. Et voilà, des choses à revoir. Association pour la béatification de Madame Élisabeth. C'est tout, oui, je crois que c'est tout. Peut-être là-dessus.